des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je suis avec Joël Guéry. Joël Guéry, vous êtes membre du collectif Sortir du nucléaire Bugey. C'est une dénomination qui en même temps affiche le programme. Joël Guéry, bonjour.
Oui, bonjour. C'est une association qui s'est créée en septembre 2011 suite à l'accident de Fukushima pour demander l'arrêt du nucléaire, de l'énergie nucléaire en France et plus particulièrement sur le site nucléaire du Bugey.
Donc après une catastrophe, donc il y a eu une réaction qui a été très forte sur le Bugey, au vu des dangers potentiels que ça pouvait représenter.
Oui, il y a eu une réaction comme un peu partout en France et dans le monde. Et on avait fait une manifestation avec 3000 personnes à cette époque-là.
Alors aujourd'hui, ce qui vous mobilise et ce qui vous a mobilisé beaucoup donc, ces derniers temps, c'est qu'un projet d'EPR qui se passerait sur le site à côté de la centrale existante ?
Oui, effectivement, le gouvernement de M. Macron veut relancer un nouveau programme d'énergie nucléaire en complet déni de démocratie pour le moment, puisqu'il n'y a rien qui est acté au niveau des parlementaires. Mais le site du Bugey a été retenu pour installer une paire de réacteurs EPR. Alors, des EPR, c'est des réacteurs comme ceux qui sont en place actuellement, à eau pressurisée. Mais...
Expliquez-moi un peu.
Oui. Donc, en fait, un réacteur nucléaire, c'est comme une centrale thermique au fioul, au gaz, tout ça. Mais hormis qu'on n'utilise pas du gaz, du fioul pour faire de la chaleur, pour faire l'électricité, mais on utilise la chaleur de la fission de l'uranium pour faire chauffer de l'eau qui, après, va faire de l'électricité.
Donc, fission de l'uranium, l'uranium, c'est une matière première qu'on va chercher.
Alors, quand le premier programme nucléaire des années 70-80 a été lancé, on exploitait tout l'uranium en France. Il y avait des mines d'uranium qui sont du reste des vestiges radioactifs actuellement. Mais depuis le début des années 2000, toutes ces mines sont fermées. Et donc, on va chercher notre uranium dans des mines au Niger, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Canada, en Australie aussi, donc dans différents pays. Et c'est effectivement importé à 100%.
Donc on peut dire que la souveraineté énergétique française, basée sur le nucléaire, dépend quand même d'autres pays.
Oui, alors même s'il y a la société Orano, qui est française, qui exploite une partie de ces mines, mais le reste, effectivement, est dépendant d'autres fournisseurs. Et puis, on voit bien avec le problème au Niger actuellement, où Orano a des mines, on ne sait pas quel va être le devenir. Donc, il y a des faiblesses. Et puis, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, c'est quand même des pays qui sont un peu sous influence russe. Alors, M. Macron y est allé dernièrement pour effectivement faire son marché, on va dire.
Alors, M. Macron est en train de changer de paradigme parce qu'on parlait de transition énergétique du temps de Nicolas Hulot et de sortir du nucléaire.
Alors, effectivement, depuis la première programmation pluriannuelle de l'énergie sous le gouvernement de M. Macron, celle de 2019-2023, qui est encore en cours, il y a eu un report de l'objectif d'un mix de 50% maximum de nucléaire dans la production électrique française de 2025 à 2035. Et dans cette programmation, il y a la fermeture qui a été prévue de 14 réacteurs nucléaires, mais c'est actuellement ancien. Donc des réacteurs anciens, comme ceux de Bugey, il y en aurait dû deux qui auraient dû fermer à Bugey, mais c'est actuellement remis en cause.
Donc on ne sort pas du nucléaire et on essaye de mettre du nucléaire de pointe avec un EPR. Est-ce que c'est mieux ?
Voilà. Alors en fait, on va conserver le plus longtemps possible les vieux réacteurs, sauf s'il y a des problèmes sérieux de sûreté, et on va construire des réacteurs dits EPR 2. Alors EPR, ça veut dire maintenant Evolutionary Power Reactor. Avant, c'était European, mais parce qu'il y avait les Allemands qui étaient dans le projet, mais qui ne sont plus. Et donc, ces réacteurs, c'est ce qui se construit à Flamanville, qui a actuellement pas encore mis en service depuis un début de construction de 2017, qui a 12 ans de retard sur, enfin 11 ans de retard sur le planning prévisionnel, qui a son coût qui est passé de 3 milliards à plus de 19 milliards. Donc, et on voit bien qu'on a de grosses difficultés à le construire. Les autres EPR dans le monde qui ont été vendus à l'étranger, c'est exactement pareil. On a des problèmes. Mais l'EPR 2, c'est un EPR initial dont on va mieux industrialiser la construction, réduire les coûts et en même temps réduire un peu la sûreté. Voilà.
Donc, raboter les coûts et raboter la sûreté également.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez plus entendre parler à l'avenir du nucléaire, M. Guéry?
En fait, c'est une énergie qui est relativement complexe, polluante, parce qu'on nous parle que c'est décarboné, mais effectivement, ça émet peu de carbone lors de la production d'électricité dans le réacteur, mais il y a quand même beaucoup d'émissions de carbone qui sont liées aux mines, à l'extraction, au traitement des déchets après, etc. Donc toute la chaîne est loin d'être neutre. Et puis, faut pas oublier qu'il y a des pollutions permanentes, puisque les réacteurs nucléaires rejettent en permanence des effluents radioactifs et des effluents chimiques. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais c'est une pollution chronique, plus après les pollutions accidentelles, plus le risque d'accident, plus les déchets dont on ne sait pas gérer à long terme. Le problème des tuyauteries qui a été découvert là avec la corrosion sous contrainte, quand on voit que sur un réacteur de Penly, ils ont trouvé une tuyauterie qui avait une fissure de 23 mm pour une épaisseur d'acier de 27 mm, on était près de la cassure et si ça cassait, c'était en communication avec le circuit primaire, on pouvait partir vers un accident grave.
Alors là, ça va se passer normalement sur à côté d'une centrale qui existe, si ça se réalise, ce nouvel EPR. Quels sont les inconvénients liés au site qui vont se retrouver pour ceux qui veulent installer cette énergie nucléaire à nouveau là-bas?
Alors, ces deux EPR qui seraient construits sur la commune de Loyette, sur un nouveau site pour lequel EDF est en train d'essayer d'acheter les terres. La commune de Loyette vient de le vendre du reste un terrain actuellement. C'est le seul site qui va être construit sur un fleuve. Les deux autres sites prévus pour les EPR, c'est à Penly, en bord de mer, et en Normandie, et à Gravelines, dans le nord Pas-de-Calais. Donc c'est un peu différent. Il faudra qu'il y ait des grandes tours de refroidissement pour parce que le débit du Rhône est menacé. En plus, il se réduit considérablement avec la fonte des glaciers, tout ça. Donc on va pas vers beaucoup d'eau. Donc il va falloir économiser l'eau. Mais ce qui veut dire tour de refroidissement, ça veut pas dire simplement prélèvement d'eau pour la réchauffer, mais ça veut dire cette fois la rejeter dans l'atmosphère, donc la consommer. Et ça va venir en concurrence des autres usages de l'eau pour l'agriculture, pour l'alimentation humaine, puisqu'il faut savoir que la métropole lyonnaise prélève 90% de son eau potable un peu en aval de la centrale nucléaire du Bugey, sur la nappe du Rhône.
Donc ça va être énergivore, Joël Guéry. Joël, il y a d'autres solutions, notamment qui sont expérimentées ailleurs, en Allemagne, pour un mix énergétique. Qu'en pensez-vous?
Alors, les solutions, on les a, parce que, en fait, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est encore en cours, il devait y avoir une étude de scénario qui devait être faite, étude qui a été faite par RTE avec l'aide de l'Agence internationale de l'énergie. Il y a 6 scénarios qui ont été étudiés. Un 100% énergie renouvelable, qui est viable et qu'on pourrait développer. Après, il y a 2 autres scénarios où il y a encore un peu de vieux nucléaire, mais pas de nouveau nucléaire. Et après, il y a 3 scénarios avec du nouveau nucléaire. Et dans ces 3 scénarios, M. Macron, dans son discours du 10 février 2022 à Belfort, a choisi tout seul sans débat, sans concertation, le scénario le plus nucléarisé avec 14 nouveaux réacteurs EPR, plus en plus des petits réacteurs nucléaires modulables, enfin qui vont pouvoir se mettre dans des quartiers pour chauffer des quartiers. Le nucléaire va être partout à terme.
Alors, à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est dû à la peur de manquer qu'on peut avoir quand on voit que l'Allemagne donc, est obligée de refaire marcher ses centrales thermiques ? C'est un argument qui est utilisé en tous les cas.
Oui, en fait, l'Allemagne ne fait pas vraiment remarcher ses centrales thermiques parce que l'Allemagne était un pays qui avait beaucoup plus de charbon et beaucoup moins de nucléaire que nous. Elle a fermé ses centrales nucléaires, c'est totalement remplacé par les énergies renouvelables et ils commencent à grignoter sur le charbon et la lignite avec les énergies renouvelables. L'Allemagne est dans un développement pour être 100% énergie renouvelable vers 2050, ce qu'on pourrait être, mais ce que pour le moment... Ce n'est pas ce qui est retenu, ce qui n'est pas soumis. Alors, ce qu'on pense quand même, il ne faut pas se cacher, parce que dans un autre discours précédent, au Creusot, l'année d'avant, M. Macron avait déclaré « pas de nucléaire civil sans nucléaire militaire et pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil ». Donc, en fait, la réalité, c'est qu'il faut qu'on maintienne une industrie nucléaire pour pouvoir continuer à avoir... du nucléaire militaire à un coût pas trop exorbitant.
D'accord. Donc, il y a, à votre avis, des visées militaires. Mais en tous les cas, pour la vie de tous les jours, le scénario du mix énergétique vous semble le meilleur. Mais par exemple, moi, quand il n'y a pas de soleil, comment fait-on pour que ça marche ? Parce que donc, c'est des énergies qui sont liées donc, au vent, au soleil. Comment ça marche ? Enfin, expliquez-moi.
Alors, c'est exactement un faux débat, parce qu'on nous vend que le nucléaire est soi-disant flexible, mais en fait, le nucléaire est très, très peu flexible. C'est pas du tout adapté à l'intermittence des énergies renouvelables. Après, le nucléaire est aussi intermittent, parce qu'il y a des arrêts réguliers pour remplacer du combustible. Donc ça, c'est programmé. Mais il y a aussi des arrêts, des fois, pour des raisons de sûreté, où un réacteur va décrocher de toute sa puissance en quelques minutes. Et ça, ça pose beaucoup plus de problèmes au réseau, et à être géré par le réseau électrique, parce que c'est beaucoup plus important que des éoliennes qui s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de vent, sachant qu'on peut le prévoir en général. Mais en fait, les solutions, elles sont autres, sans doute. Ce qui est le plus réactif, c'est déjà les barrages hydroélectriques pour répondre à des arrêts intermittents. C'est aussi les centrales gaz qui peuvent répondre relativement vite et s'arrêter et qui ne coûtent pas cher à construire. Donc, un coût de kilowattheure est économique. Parce qu'avec le nucléaire, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ces réacteurs, ils vont avoir un coût énorme. On est avec l'électricité qui sera la plus chère, s'ils fonctionnent à 90% de leur capacité. Mais s'ils font répondre à des intermittences des renouvelables, ils ne vont pas fonctionner à 90%, ils vont fonctionner à 30-40%. Et du coup, leur coût va être énorme. Ce n'est pas du tout adapté. Donc, en fait,
Ça ne peut pas rentrer dans un pilotage donc, avec d'autres énergies, vous voulez dire ?
Non, en fait, le discours qu'on a actuellement, c'est le mix. Il faut du nucléaire et des énergies renouvelables. C'est le discours des gens qui veulent le nucléaire. Parce que, effectivement, pour eux, ils ne peuvent pas justifier 100% de nucléaire actuellement sans énergie renouvelable. Mais les énergies renouvelables seront bridées par les réacteurs nucléaires qu'on va construire, alors qu'on peut avoir... les énergies renouvelables n'ont pas besoin du nucléaire. Elles peuvent fonctionner, elles peuvent satisfaire la totalité de la production électrique à terme, sachant qu'il n'y a pas que du photovoltaïque et de l'éolien. Il y a du gaz aussi, avec le biogaz. Il y a de la biomasse avec le bois. On n'est pas obligé de tout passer à l'électrique non plus.
Et est-ce que toutes ces énergies renouvelables ont été expérimentées avec un bénéfice constaté ?
Alors, c'est là où la grosse différence est. C'est que dans les scénarios d'RTE, il faut un chiffrage qui visiblement est pénalisant pour les énergies renouvelables, alors que les coûts sont parfaitement connus parce que des parcs photovoltaïques, des parcs éoliens, des installations de biogaz et tout ça, il y en a déjà plein qui fonctionnent, qui se construisent, donc c'est des vrais coûts. Alors que l'EPR2, ce qu'il faut savoir, c'est encore un réacteur qui n'est que sur les planches à dessin, qui n'est même pas aux études détaillées. EDF ne s'est pas encore engagé fermement sur les coûts.
Donc les coûts ont été déjà connus, donc avec les énergies renouvelables, et maîtrisés.
Oui, les coûts sont maîtrisés et on sait que les énergies renouvelables sont moins chères que l'énergie nucléaire à l'heure actuelle. Est nettement moins chère, presque moitié moins chère.
Joël Guéry, notre entretien se termine. Quelle est votre volonté et votre espoir maintenant ?
L'espoir, si on revient au projet d'EPR à l'Oyette, c'est il faut effectivement que les gens se réveillent et se mobilisent contre ce projet. Il y a actuellement à La Hague un projet de piscine, parce qu'il faut aussi stocker les combustibles usés, et une grande, grande piscine. Et en fait, bien que les gens aient déjà l'usine de La Hague, la centrale de Flamanville, eh bien, les gens ils veulent plus de nucléaire dans le secteur. Ils se révoltent contre. Il faut qu'on ait la même chose ici à Bugey.
Ça n'est pas encore fait.
Non, ce n'est pas encore fait. Non, ça sera ce qui va avancer très vite, c'est les deux EPR de Penly. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi les politiques qui peuvent se bouger, parce qu'il y a un débat parlementaire et un débat au Sénat qui va définir la nouvelle politique énergétique de la France et qui pourrait très bien ne pas aller dans le sens que veut M. Macron et aller vers du 100% énergie renouvelable.
Dossier à suivre donc. Je vous remercie beaucoup, Joël Guéry, pour toutes ces informations et je vous dis à bientôt, peut-être sur notre antenne. Amis auditeurs, au revoir et à la prochaine émission.